Monseigneur Bernard Felet. Bonsoir, bien que l'émission soit préenregistrée samedi, le matin, à l'occasion de votre passage à Paris, vous allez vous rendre cet après-midi dans le cadre de Villepreux, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, pour ces journées de la tradition. Vous nous faites l'amitié de votre visite à Radio Courtoisie pour nous dire un petit peu eh bien, ce qui se passe entre la Fraternité Saint-Pédis et Rome. Déjà, vous avez eu, tout le monde le sait maintenant, une rencontre à l'invitation du cardinal Levada. Vous êtes rendu à Rome le 14 septembre. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait ?
Donc, il s'agissait de la conclusion des discussions depuis 2 ans à la demande de Rome, qui d'autre part correspondait aussi à notre attente exprimée depuis l'an 2000. Donc il y a eu des discussions doctrinales. Un groupe d'experts, disons de théologiens de la fraternité, a rencontré une commission d'experts de la congrégation de la foi, et la fraternité a pu exposer son point de vue ou ses points de vue sur les problèmes actuels qui découlent, qui viennent surtout du concile et de l'après-concile. Et donc après ces discussions, il fallait une conclusion. Et la lettre du cardinal Levada, qui est le préfet de la Congrégation de la foi et aussi le président de la commission Ecclesia Dei, donc m'a invité avec les deux assistants de la fraternité à cette réunion pour une évaluation des discussions. C'était ce qui était indiqué dans la lettre, et ainsi aussi pour évoquer des perspectives futures. Donc ça, c'est la raison principale. Et de fait, on ne peut pas dire qu'il a été fait une grande mention des discussions lors de cette rencontre. C'était déjà plutôt la conclusion qui nous était présentée. Et la conclusion nous était présentée sous forme d'un texte qui sera assigné avec éventuellement des modifications, et une proposition de solution canonique. Voilà donc ce qui s'est passé le 14 septembre.
Alors, la presse a dit que donc, ce préambule doctrinal restait confidentiel, donc je ne vais pas pouvoir vous poser de questions sur ce sujet, mais je sais que, donc, après Villepreux, vous vous rendrez à Rome, parce que là aussi, ça a été dit, pour une réunion à Albano, les 7 et 8 octobre, où se trouveront les supérieurs des districts de la Fraternité Saint-Pédis. Alors, que va-t-il se passer ?
Peut-être pas grand-chose, peut-être des choses importantes. Il s'agit tout d'abord d'informer, vu d'une part justement le caractère confidentiel du document, vu aussi l'ouverture qui a été faite sur des possibles disons interventions sur le texte. C'est normal qu'il ne soit pas connu, parce que ça n'aurait pas de sens de faire connaître un texte qui après serait modifié. Et vu donc cette confidentialité d'un côté, vu aussi, d'autre part, la possibilité bien trop réelle de fuite, dans ce caractère des médias d'aujourd'hui, cette frénésie de la nouvelle nous a obligés à beaucoup de réserves, et donc, par contrepartie, la nécessité de mettre au courant les supérieurs, qui eux-mêmes ensuite mettront au courant les confrères sur ce qui se passe réellement, avec, disons, la due discrétion. Il ne s'agit pas de tout cacher, évidemment, c'est pas ça le problème, c'est pas ça même disons, la question. Il n'y a rien à cacher en soi, mais c'est normal que dans une discussion à ce niveau-là, une réserve soit maintenue.
Surtout que le texte n'est peut-être pas encore définitif, au fond, c'est...
La manière dont Rome nous l'a présenté est qu'eux-mêmes, très très clairement, ne le considèrent pas comme définitif.
Alors, qui y aura-t-il? Qui sont les invités à la réunion d'Albano, les 7 et 8?
À cette réunion, qui d'ailleurs n'a pas été convoquée pour cette question, c'était disons, une récupération d'une autre réunion où un certain nombre de supérieurs allaient déjà venir, donc nous avons profité de l'occasion pour inviter eh bien, les supérieurs de district, les supérieurs de séminaire, enfin donc les supérieurs de la fraternité, pour encore une fois une journée de information et puis déjà bien sûr de réflexion, peut-être même de décision, il faudra voir, ça c'est je ne veux pas anticiper.
Est-ce que vous inscrivez alors ce rendez-vous et les propositions qui vous ont été faites le 14 septembre dans la ligne un petit peu de ce que vous aviez souhaité depuis votre audience auprès du Saint-Père au tout début de son pontificat? Vous parliez d'étapes, de préambules, vous souhaitiez... Mais là, je crois que tous les auditeurs de Radio Courtoisie le savent, vous souhaitiez que la messe ne soit pas en liberté surveillée comme elle l'était, la messe de Saint-Pie-V, ou que les prêtres et les évêques de la fraternité ne soient pas sanctionnés comme ils l'ont été. Est-ce que vous inscrivez cela dans cette ligne, ou est-ce que c'est tout à fait différent? Est-ce que c'est encore une étape? Comment jugez-vous?
Et j'avoue que je suis un petit peu gêné pour... donner l'appréciation qu'il faudrait à cet acte. Pour moi, il est un peu attendu dans le fait que, déjà en l'an 2005, lors de l'audience avec le Saint-Père, Benoît XVI insistait pour que disons, tout le travail qui devrait conduire à une régularisation se fasse assez rapidement, qu'on ne tarde pas. Et là, j'ai presque l'impression que ce n'est plus simplement ne pas tarder, mais c'est presque, c'est une hâte certaine, ça ressemble même à de la précipitation. Et ce caractère de précipitation probablement nous gêne un peu parce que on voit d'un côté une décision, une volonté de résoudre, ça nous réjouit, ça, disons, de nous donner un statut, mais peut-être en passant par-dessus, en court-circuitant un certain nombre de problèmes qui sont bien, bien, bien réels et qu'il nous est impossible de ne pas considérer. Il y a des problèmes, disons, doctrinaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a tous les problèmes des relations avec les épiscopats en place, où, disons, on peut dire que sur toute l'Europe, nous avons des problèmes majeurs. Et déjà voir comment certains ont réagi à la première annonce qui s'est faite le 14 septembre, j'avoue que ça présage rien de bon. Et donc là, il y a vraiment tout un nombre de questions il faudra évaluer correctement pour bien voir quelle sera ou serait notre situation après, dans les circonstances présentes.
Dans les difficultés doctrinales, il y a ces nouveautés introduites au Concile Vatican II, la collégialité, la liberté religieuse, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Il se trouve qu'un peu après votre réunion d'Albano, les 7 et 8 octobre, à la fin du mois, il y a une autre réunion interreligieuse à Assise, dans l'esprit de ce qui s'était passé il y a 25 ans, dans l'esprit ou pas d'ailleurs. C'est à nous un petit peu de vous demander comment est-ce que vous jugez justement cette réunion d'Assise. Et est-ce que justement vous étudierez enfin, un petit peu ces questions avant de donner une réponse au Saint-Père?
Je pense que les deux choses sont distinctes. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement lier l'une et l'autre. Cependant, la question de cette réunion d'assises, je pense, est une bonne illustration de problèmes non résolus. En tout cas, c'est comme ça que nous le voyons. Parce qu'évidemment, les objections de fond que nous avions contre Mgr déjà Lefebvre avait contre ses premières réunions d'assises, nous ne voyons pas comment elles seraient résolues. Il faut noter, c'est, disons par honnêteté, qu'il y a une volonté de corriger peut-être même la nature de la réunion d'assises en essayant d'enlever des éléments qui ont été fort choquants lors des autres réunions. Par exemple, il n'y aura pas de culte public d'autres religions, d'actes de culte public d'autres religions à cette assise. On le présente comme une réunion. Bien sûr, il y a un caractère religieux quand même, on veut prier, mais en même temps on veut discuter, on veut réfléchir. Donc on baisse la barre, on baisse le niveau. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2002 ou 2003, le cardinal Ratzinger de l'époque avait écrit un livre pour justifier Assise. Et dans ce livre, il manifestait très très clairement qu'une telle réunion n'était possible ou acceptable pour un catholique qu'à la condition de remplir des conditions très très exigeantes. Par exemple, celle d'une déclaration fort claire qui empêcherait l'interprétation syncrétiste. Il disait aussi qu'il était impossible de prier ensemble avec quelqu'un qui ne croirait pas au même Dieu, c'est-à-dire donc qu'on ne s'adresse pas à la même personne, et qui aurait une autre définition de la prière. Et quand on voit ces éléments-là, on se dit, mais comment vont-ils faire à Assise ?
Je pensais que lui-même aura du mal à remplir les conditions qu'il avait fixées lorsqu'il était encore cardinal.
Ah, je pense. Donc ça, c'est des questions de fond. Il y a encore d'autres questions. C'est qu'on a bien annoncé qu'on allait faire, on allait célébrer un anniversaire. Or, il y a eu des événements, on peut le dire, vraiment très, très scandaleux, profondément choquants, en 86, ce fameux Bouddha sur le tabernacle, enfin, qui a été reproduit sur beaucoup de journaux, de photos, où c'est un peu moins connu, des poulets égorgés sur un autel, dans une autre église. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Et lorsqu'on dit qu'on va faire un anniversaire, on ne pourra pas se distancer de ces événements. Et au contraire, on voit toute la préparation, en tout cas au niveau des diocèses, on rappelle l'assise de 86. Tout ça conduit à cette pensée globalisante, nivellante, que toutes les religions, avec des plus et des moins, avec des degrés, mais enfin, se valent. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme, ou disons peut-être avec une note un tout petit peu différente, l'indifférentisme, dans le sens où on dit, bon, peu importe la religion, c'est indifférent, elles conduisent tout au bon Dieu. Et une journée telle que celle-là, quelle que soit l'intention, quelle que soit même la volonté des auteurs de cette nouvelle réunion, ces messages, ils ne pourront pas l'empêcher. Il sera d'ailleurs récupéré par toute la presse du monde entier. C'est dans cette tendance justement de globalisante. On est en train de faire une espèce de grosse réunion de toutes les religions, voilà, qui sont au service de la paix bien sûr mondiale. On est bien loin de l'unique religion du Christ, l'unique qui peut sauver. C'est un dogme, rappelons-le. Et même, disons, il y a encore un document récent, Dominus Iesus, qui rappelait qu'il y a une seule vraie religion, une seule qui peut sauver, c'est la religion catholique. Et ça, évidemment, ce message-là, il disparaît dans une telle réunion. Et le but de l'Église étant de sauver les âmes, si on oublie de faire passer ce message-là, y a un gros problème.
Mmh. Mais là, vous soulevez un paradoxe, parce que vous disiez qu'effectivement, en termes d'image déjà, une réunion comme Assise ne peut que véhiculer un message indifférentiste. Enfin, on a l'impression que c'est ça. Au fond, toutes les religions se valent et ça se voit presque dans les photos où un groupe, on voit le pape, le Dalai Lama, l'archevêque de Canterbury, et on se dit, bon ben voilà, ils sont tous à égalité sur un même pied. Mais le pape lui-même dénonce l'indifférentisme. Il a eu à plusieurs occasions le souci de dire... Alors, ça semble paradoxal, qui est...
Je pense que c'est paradoxal, tout à fait. On a vraiment l'impression de... Avec notre pape actuel, qui veut deux choses. Qui veut deux choses qui, pour nous, ne sont pas compatibles. Et pour lui, qui semble être compatible. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est un constat. C'est un constat qu'on voit à divers niveaux. Par exemple, au niveau nouveauté du concile, attachement au passé. Il a condamné cette conception du concile comme apportant une nouveauté telle à l'Église qu'il y aurait rupture avec le passé en disant non, ça c'est pas possible. Or, pendant 40 ans, c'est ce que partout on a toujours dit et enseigné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Lorsque vraiment 40 ans ont été en erreur, d'après ce qu'il dit, ça semble être vrai. Mais alors, si c'est ainsi, il faudrait des révisions. Or, il est pour Vatican II. Alors là, on ne sait plus, on ne comprend plus, on a de la peine. La peine à suivre, et c'est paradoxal, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, c'est un des exemples. L'exemple de l'écuménisme, où d'un côté on fait des réunions, on est tous ensemble, où on souligne les points communs, et puis en même temps on dit « mais il faut garder l'identité ». Eh bien, je regrette, dans une telle réunion, on ne la garde pas. Par le fait même de la faire, par le fait même de dire qu'on est ensemble, forcément c'est l'identité qui perd des points.
Alors, dans ce contexte, comment jugez-vous la parution, on peut dire ces jours-ci, puisque les exemplaires sortent de l'imprimerie à l'occasion de ces journées de Villepreux? C'est le deuxième ouvrage traduit en français de Mgr Gherardini. Le premier s'intitulait « Vatican II, un débat à ouvrir » et celui que nous avons, vous et moi, entre les mains, s'intitule « Un débat qui n'a pas eu lieu ». Est-ce que vous pourriez nous dire déjà... Pour les auditeurs de Radio Courtoisie, qui est Mgr Gherardini et est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec son analyse?
Donc, Mgr Gherardini est un théologien, on peut dire renommé. Il est actuellement chanoine de la basilique de Saint-Pierre, directeur de Divinitas, qui est une revue théologique, semble-t-il la seule qui soit publiée au Vatican. Il a été doyen de l'Université du Latran, doyen de la théologie, faculté de théologie. Un grand nom dans la théologie. Il a 85 ans, donc il a bien tout vu. Il a certainement pu assister au concile... En ayant déjà, disons, on peut dire, étant à une certaine maturité, bon, encore jeune théologien, mais quand même. Et donc, son analyse est d'autant plus précieuse qu'il a eu un rôle important comme consulteur dans diverses congrégations romaines, dicastères romains. Et le voilà qui s'inscrit en biais contre... Eh bien, contre cette façon générale, dominante, de présenter le concile qu'on a eu jusqu'ici. Et donc son débat qui devrait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, le titre c'est « Le concile Vatican II, un débat qui n'a pas eu lieu ». Donc il aimerait, il propose, il demande que ce débat ait lieu. Pourquoi ? Parce que ben, ce concile est accompagné d'une somme de problèmes gigantesques. Et on le voit, il n'y aurait pas une telle crise dans l'Église aujourd'hui qui a suivi le Concile, qui et peut-être la préparer aussi, en tout cas qui s'est manifestée à l'extérieur après le concile, ce qu'on appelle le post-concile, il ne pourrait pas y avoir une telle crise s'il n'y avait pas un problème avec le concile. On nous dit qu'on fait là un jugement erroné, que la faute, c'est pas le concile, c'est l'air du temps, c'est les problèmes généralisés qu'on peut rencontrer dans la société d'aujourd'hui, ce que nous n'oublions pas. C'est clair que la crise culturelle, la crise de la pensée, donc philosophique, théologique, tout ça est lié, c'est vrai. Mais précisément, n'est-ce pas le but, enfin un des buts de l'Église, qui est intemporelle, qui est maîtresse de vérité, la vérité elle est au-dessus du temps, de donner la solution à une telle crise du monde, crise de la pensée. Or, pour une fois, on a l'impression qu'elle est partie avec. Elle s'est engagée dans la crise, elle a ouvert les portes à elle. Et donc, le Mgr Gherardini d'indiquer qu'il y a un tas de problèmes non résolus qui découlent directement du concile et ce serait bientôt le moment de s'en occuper. Il part d'une manière intéressante de mouvements, de tendances qui sont imposées suite au concile. Je pense que Mgr Pozzo dirait qu'ils se sont emparés du concile.
On peut dire aux auditeurs, donc Mgr Pozzo est le secrétaire de la commission ecclésiastique qui charge des relations avec les prêtres et les fidèles de la tradition.
C'est ça. Et donc, c'est donc une interprétation, une compréhension du concile qui s'est emparée du concile et qui s'est imposée comme étant l'unique véritable. Bon, il y en a déjà deux, donc, mais qui vont les deux un peu dans le même sens, c'est-à-dire c'est ce qui a été reçu partout, c'est-à-dire que le concile est une nouveauté, il veut être une nouveauté, il veut tourner une page et puis faire passer aux oubliettes les 20 siècles de l'Église qui ont précédé. Et donc l'insistance de Mgr Gherardini, moi je la trouve très très intéressante. Donc de montrer que c'est pas seulement justement au niveau de l'interprétation, c'est pas de la compréhension, mais s'il y a des compréhensions fausses, peut-être bien qu'il faudrait remonter jusqu'au texte lui-même qui indique, qui donne le chemin à ces interprétations.
Donc des ambiguïtés, des équivoques et peut-être même des erreurs.
Qui sait, oui.
Oui. Donc ça va dans le sens aussi, je crois, de cet évêque qui demandait l'an dernier, lors d'un colloque à Rome, Mgr Schneider, carrément une liste des erreurs d'interprétation, un syllabus du concile.
Oui, oui. Disons, je suis tout à fait. Je partage l'idée. D'ailleurs, je l'ai carrément demandé à Rome qu'on fasse une sorte de collection de propositions, soit exprimées d'une manière positive, soit négative, c'est-à-dire donc soit des affirmations, voilà ce qu'il faut croire, voilà ce que le catholique est obligé de croire par rapport au concile. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vérités qui ont été très sérieusement amochées, niées, galvaudées, falsifiées, et donc il est urgent que de la part du magistère, il y ait une réaffirmation de la foi catholique. Et cette affirmation, elle fait sur deux manières. La première, c'est donc des propositions positives. Voilà, je dois croire qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a une seule religion, enfin un seul baptême, etc. Et puis aussi des condamnations. Alors là, je n'ai pas le droit de croire qu'il est défendu de penser que normalement, la condamnation est plus précise. L'affirmation est plus ouverte, mais ça, bon, c'est à la sagesse du magistère de voir comment faire cet ensemble de propositions, mais j'abonde dans ce sens-là. Je vois pas comment on pourra s'en sortir autrement. Disons, d'une manière ou d'une autre, il faut réaffirmer la vérité devant une montagne d'erreurs, d'hérésies, d'opinions fausses qui circulent sur l'Église, sur toutes les questions. On voit bien, lorsqu'il y a des questions qui sont posées aux catholiques, même pratiquants, le nombre d'erreurs et la quantité de personnes qui sont dans l'erreur, elle est effrayante, vraiment effrayante. Et c'est urgent de réaffirmer clairement ce qu'est la foi catholique, ce que l'on doit croire, tout chrétien doit croire.
Donc c'est ça, un effort de clarté. Et on a le sentiment, parce qu'il y a cet ouvrage de Mgr Gardini qui paraît là en français, je vais d'ailleurs pour les auditeurs de Radio Courtoisie donner les références tout de suite. Donc il s'agit de l'ouvrage de Mgr Brunero Gherardini, Le Concile Vatican II, un débat qui n'a pas eu lieu. C'est édité au Courrier de Rome, on peut se le procurer bien sûr chez Duquesne Diffusion, chez nos amis de la librairie Notre-Dame de France, sur les tables de presse de pas mal de prieurés, en particulier à Saint-Nicolas du Chardonnay, 23 rue des Bernardins, on peut trouver ça. Sinon, je vous donne l'adresse du Courrier de Rome. C'est tout simplement Courrier de Rome, boîte postale 156 78 001 Versailles CEDEX. Je répète, Courrier de Rome, boîte postale 156 78 001 Versailles CEDEX. On peut aussi adresser un courrier électronique à Courrier de Rome, tout attaché, donc Courrier de Rome, en un seul mot, @wanadoo.fr. Et l'ouvrage, donc, vaut 11 euros. Je pense qu'il doit y avoir 3 euros de port, mais il suffit, dans ce cas-là, d'envoyer un petit courrier électronique pour savoir. Donc, je disais, cet ouvrage paraît aujourd'hui. Il y a aussi cette semaine la publication sur des sites italiens, et ça sera bientôt traduit, d'une supplique d'universitaires, tant ecclésiastiques que laïcs, qui vont dans le même sens, qui eux aussi demandent un réexamen approfondi du Concile. Ça a l'air nouveau, parce que vous étiez peut-être un peu seul autrefois à demander ce genre d'explications, de clarifications. On a le sentiment que des gens qui ne sont pas, Mgr Gherardini n'est pas de la fraternité Sapidis, les universitaires auxquels je pense, parce qu'ils ont souscrit, enfin parce qu'ils ont signé, ils sont déjà 35, 40, ne sont pas à ma connaissance non plus des prêtres ou des fidèles attachés à la fraternité Sapidis. Comment est-ce que vous expliquez ce mouvement?
Je pense que depuis un certain temps, disons 10 ans, peut-être un petit peu plus dans ses débuts, plus visible depuis l'arrivée au pontificat de Benoît XVI, il y a un mécontentement devant la situation, disons, où se trouve l'Église aujourd'hui, et qui cherche, qui réfléchit sur les causes, et qui voit bien qu'il y a des points de non-clarté, d'obscurité au Concile. Et donc, ce mouvement grandit, c'est manifeste. Il y a beaucoup d'aspects différents. Je pense qu'on peut y voir un début, ou les prémices d'un mouvement de restauration. Ce n'est pas encore la restauration, il ne faut pas se tromper. Mais ça pourrait y conduire, disons comme ça. Et je crois que c'est profond. C'est pas seulement quelques personnes, celles qui se manifestent aujourd'hui. Je pense qu'on peut les prendre comme la pointe de l'iceberg. Le mouvement est beaucoup plus étendu, parce que c'est évident, la situation de l'Église aujourd'hui, mais elle est frustrante. Enfin, c'est pas glorieux. Vraiment, on voit partout où l'Église est en perte de vitesse. Bon, il y a quelques événements qui pourraient donner le change, comme la réunion des jeunes, les JMJ, des choses comme ça, ou pas une messe papale en plein air où il y a un peu de monde. Mais quand on regarde la réalité quotidienne, quand on essaie de comparer, je sais pas, à 50 ans près, la présence de l'Église, la présence sociale, donc dans la société de l'Église, des principes de l'Église, eh bien, on est presque arrivé à zéro. Tout le caritatif. Autrefois, les hôpitaux, bien, c'était qui étaient les infirmières? Mais c'était des sœurs, c'était des religieuses qui accompagnaient, avec donc la consolation du bon Dieu jusqu'au dernier moment, les personnes qui devaient quitter cette terre, et donc il les préparait à l'éternité. Tout ça, c'est fini.
Et aujourd'hui, on a même peur d'être euthanasié.
Oui, c'est tout à fait. C'est vraiment, c'est, on est passé du, presque du ciel à l'enfer. Regardez les écoles catholiques, dans chaque village, il y avait quelques sœurs, une école carrément catholique. Tout ça, ça a disparu. Disparu, de la même que la présence de ces habits religieux, ces religieux sur, dans les rues, tout ça, c'est fini. C'est fini, c'est une disparition. Et ça, c'est un fait. Alors, bien sûr, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent plus faire cette comparaison. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu. Les plus anciens, oui. Mais il faut déjà, maintenant, déjà un certain âge. Reste que pour les jeunes, ils savent, ils devinent quelque part que cette Église-là, elle a un idéal qui doit être absolument extraordinaire. Et ben, il ne l'aurait plus donné comme ça, il ne l'aurait plus présenté comme ça. C'est comme si, au lieu de leur donner la réalité, on leur donnait une peinture. S'il y a une dimension qui manque, c'est la plus belle des dimensions, c'est celle de pouvoir se donner pour le bon Dieu, pour les âmes. On en reste à l'humain, au mieux, je sais pas, à l'assistance sociale. Il y a quand même plus haut que ça, quand on pense à l'âme humaine, toute capable d'éternité. C'est le but de l'homme, c'est le ciel. Si Dieu nous a créés, c'est pour aller là-haut. Et il n'y a pas 36 chemins.
En disant ça, Monseigneur, vous donnez une explication à cette raréfaction des vocations, parce que ici, en France, à Paris, il n'y a eu, pour tout le diocèse de Paris, qui a quand même 3 millions d'habitants, que 4 prêtres ordonnés cette année. Et je crois savoir que même à Rome, il n'y a pas eu d'ordination. Il y a des ordinations de congrégations, etc., mais du diocèse, des séminaristes diocèses, on voit effectivement disparaître les jeunes gens qui ne veulent peut-être pas réaliser une vocation d'assistante sociale. Ils pensent qu'effectivement, il y a peut-être plus important et plus généreux à faire.
Oh, tout à fait. Oui. Pour Rome, entre cette année et l'année prochaine, d'après ce que j'ai entendu, il y aura une seule ordination sacerdotale pour le diocèse de Rome. Donc, bien sûr, il y a d'autres ordinations, mais pour le diocèse de Rome, une seule pour 2 ans. C'est assez expressif d'un problème grave.
Ouais. Alors, je ne veux pas évidemment vous interroger sur le préambule doctrinal. Je sais que c'est de son acceptation ou de son refus que dépendront les solutions canoniques qui vous seront proposées. Mais est-ce qu'on peut un petit peu anticiper quelles seraient, selon vous, les garanties qui vous permettent?
Déjà en 1987, Monseigneur Lefebvre, donc c'est un peu avant les sacres, avait rédigé un projet de régularisation, et précédé d'une petite introduction dans laquelle il disait que la condition sine qua non de tout accord, c'était que l'on respecte notre identité. Autrement dit, et ça c'est resté, c'est-à-dire si nous n'avons pas la certitude que notre état, après l'accord, nous permette de conserver toute cette foi, de conserver cette vie de foi, c'est-à-dire si on essaie de nous obliger à des comportements qui ont été introduits dans l'Église après, et qui ne sont pas compatibles, nous ne marcherons pas. Et donc il y a ça. Il y a aussi, c'est par rapport à la situation, évidemment. Nous ne faisons pas l'unanimité dans l'Église, c'est évident. C'est même peut-être une...
Parfois vous faites même l'unanimité contre, je crois.
Et donc, rentrer à ce moment-là dans une situation qui serait conflictuel avec un rapport de force complètement disproportionné, je crois que ça reviendrait à un suicide. Donc il faut de toute nécessité une protection assez, je dirais, majeure pour garantir cette vie et que, disons, un accord qui semblerait au premier abord intéressant ne se tourne pas en suicide.
Et là, nous parlons de ces conditions sine qua non. Un petit peu auparavant, vous nous disiez effectivement que des intellectuels, des ecclésiastiques s'intéressaient au combat doctrinal que Mgr Lefebvre a lancé dès le début, lorsqu'il a vu effectivement les conséquences terribles de l'Église conciliaire. Est-ce que vous-même, vous continuez aujourd'hui à avoir des rapports? Est-ce que, d'une certaine façon, pour être clair, ce que vous demandez pour la fraternité vous semble aussi souhaité par des personnes qui ne sont pas de la fraternité et qui, elles, se disent « mais oui, c'est bien l'Église qui en a besoin, c'est pas vous ». En clair, vous ne défendez pas une œuvre personnelle.
Pour l'instant, il m'est difficile d'arriver à estimer correctement l'attente qu'on trouve à Rome. Par contre, au niveau, disons, du chrétien de la rue, là, je suis absolument certain que l'attente est grande, même énorme, de ce qu'il y ait une reconnaissance par l'Église de la fraternité et qui permette à la fraternité de faire bénéficier, on peut dire, toute l'Église de ces trésors qui, mais tout seulement, qui étaient ceux de l'Église et qui sont retrouvés entre ses mains, Dieu sait comment.
Alors, est-ce que je peux vous demander, quand vous dites le chrétien de la rue, je pense qu'il faut mettre ça entre parenthèses. Vous devez fréquenter peut-être aussi, je ne sais pas, des prêtres, des évêques. Je ne pense pas que vous voyez tout de suite dans la rue, à la sortie de ce studio, un fidèle qui vous dit « Monseigneur, vite, 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 il faut que la tradition retrouve droit de cité dans l'Église. Je sais que vous avez des contacts. » Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a là une attente et sans donner de nom, parce que ça pourrait d'ailleurs peut-être causer des difficultés aux personnes qui sont en rapport avec vous, mais dire un petit peu qu'est-ce qu'ils vous disent, jusqu'où va l'expression de leur désir de voir la tradition au fond restaurée.
Oh, il y a des évêques, il y a des vicaires généraux, des prêtres, même des gens qui ne sont pas nécessairement, j'allais dire, alignés sur la fraternité, pas du tout, disons, donc, qui sont tout à fait, disons, dans l'Église aujourd'hui, et qui nous disent des paroles très très fortes, telles que « Tenez bon, vous êtes notre unique espérance », enfin, vraiment des phrases très très fortes, très très fortes. Enfin, je pense qu'ils se rendent bien compte de l'état de l'Église. Et ils se rendent bien compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change, il faut un coup de barre. Comment se fera-t-il? Eh bien, je pense qu'ils espèrent qu'une reconnaissance de la fraternité aiderait. Bien sûr, ce n'est pas ça qui suffirait, mais disons, ce serait un des pas, une des notes de cette restauration. Certainement pas apprécié par tous. Et donc, un moment délicat, de toute façon, pour les autorités romaines.
Parce que vous citiez tout à l'heure Mgr Lefebvre, je crois que quand on lui a fait des propositions, effectivement, on essayait, plus ou moins subrepticement, de lui demander de faire aussi un peu ce qui se faisait dans les séminaires. Et lui disait, mais si je fais ce qui se fait, il se passera pour mes séminaires, ce qui se passe pour les autres séminaires, c'est qu'il n'y aura plus personne. Ben, c'est ça,
évident.
Au fond, le drame.
Tout à fait, c'est évident. C'est évident qu'il ne faut pas, reproduire les erreurs. Ça ne sert à rien. Si on veut une restauration, il faut prendre le remède. Il ne faut pas continuer dans le sens de la descente. Or, on voit bien qu'un certain nombre de principes qui viennent précisément de cette accommodatio, de cette mise en harmonie avec le monde, ça tue l'Église, ça tue l'esprit chrétien. Et ça, il faut absolument l'éjecter de l'Église. Et ça peut venir que d'en haut, bien sûr. Il peut y avoir l'exemple de vertu, ça peut aider. Le bon Dieu a toujours travaillé comme ça aussi, il travaille avec ses saints. Mais à un certain moment, il faut aussi le saut d'en haut, le saut, disons, papal, du souverain pontife. C'est, disons, l'Église, elle a une tête, et c'est la tête qui doit gouverner.
Alors, il y a évidemment les discussions doctrinales dont vous nous avez rappelé l'importance. Il y a la nécessité d'un statut qui donne entière liberté à la tradition. Monseigneur Lefebvre aimait à dire « laissez-nous faire l'expérience de la tradition ». Vous n'attendez pas que les discussions soient terminées, vous n'attendez pas non plus que le statut soit établi pour œuvrer de facto sur le terrain pour la tradition, dans la fraternité. Je crois qu'on pose ces jours-ci la première pierre d'un séminaire aux États-Unis. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment la fraternité, sans du tout mépriser les questions doctrinales et les importantes questions canoniques, pense aussi, on peut au fond dire, contra factum non fit argumentum, contre les faits. Il n'y a pas de discussion qui tienne et nous avançons dans les faits. Quels sont les faits que vous allez proposer là, dans cette année qui vient, vos voyages, les constructions, les fondations?
Alors, bien, nous venons de commencer une petite congrégation en Afrique, donc une branche supplémentaire de la fraternité, vraiment pour les missions. Elle n'est pas destinée à être, disons, pour le monde entier, mais surtout pour l'Afrique. Peut-être que nous allons l'étendre ensuite à l'Asie, il faudra voir. Mais en tout cas, on commence là une nouvelle congrégation de sœurs. On a déjà une œuvre nouvelle, je pense, qui correspond à un besoin. Ensuite, oui, ce séminaire aux États-Unis. Bon, on en commence la construction parce que celui qu'on a actuellement est trop petit. Actuellement, les premières années, loge à 2 ou 3 par chambre.
Combien y a-t-il de séminaristes aux États-Unis actuellement?
Le séminaire compte presque une centaine, 85, 6. Enfin, je ne sais pas encore les entrées, ce sera au mois d'octobre, donc tout bientôt. On vient de commencer le mois d'octobre. On verra combien de... D'habitude, c'est à peu près entre 20 et 25 nouveaux aux États-Unis.
Donc ça dépasserait les 100, quoi, aux alentours de...
Je pense que ça pourrait dépasser les 100, oui. Oui. Je ne sais pas où on va les mettre. Donc l'urgence...
Ce sont quand même de bons problèmes, ça. La crise du logement, quand il y a trop de séminaristes, on préfère avoir ce genre de problème que de vendre des séminaires et les transformer en...
Je préfère, oui.
En appartements, oui.
Je préfère, oui. Sinon, probablement qu'il y aura, disons, l'établissement en Afrique, au Nigeria. Bon, nous avons déjà commencé, mais donc j'espère qu'on aura suffisamment de prêtres pour pouvoir donc stabiliser un premier prieuré. On a déjà un prêtre sur place qui fait un peu la navette, enfin un deuxième qui l'accompagne de temps en temps. Mais là, j'espère qu'on arrivera à bien établir, donc ça sera un pays de plus. On a déjà, je ne sais pas combien, 8, je crois, 8 chapelles. Enfin, il y a du monde, un peu partout, comme ça. Mais je pense que dans l'immédiat, il y aura donc ce côté-là, sur l'Afrique. Ensuite, il y a des écoles, plusieurs projets d'ouverture d'écoles, en plus. Sinon, les projets ne manquent pas.
c'est et vous-même, votre prochaine destination, donc je sais que vous êtes à Rome les 7 et 8, mais ensuite, vous avez déjà quelques voyages de prévu.
Nous avons une première réunion de la Légion de Marie aux Philippines, encore ce mois d'octobre, là, et j'y serai. On essaie de faire revivre cette magnifique œuvre. Là, on voit un zèle, un feu, et vraiment apporter des laïcs. Bien sûr, il faut un peu de courage, mais extraordinaire. Les fruits de la Légion de Marie sont merveilleux.
À ce propos, donc, nous préenregistrons cette émission sur Radio Courtoisie avec Mgr Bernard Fellet, supérieur général de la Fraternité Saint-Pie-X. C'est le 1er octobre, le jour du préenregistrement, ça sera diffusé le 6 octobre. Mais c'est le premier jour du mois du rosaire. Je sais que vous avez lancé une croisade du rosaire sur plusieurs mois et quasiment 2 années. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme consigne pour ce mois du rosaire, comme intention de prière pendant ce mois-ci, plus spécialement?
Ah ben certainement cette... disons, appelons-le la restauration de l'Église, mais aussi le bien de la fraternité. que la fraternité fasse ce qu'elle doit devant le bon Dieu, à tout prix, à tout prix. Je pense qu'il ne faut pas oublier, dès qu'on parle de discussion, négociation et ainsi de suite, on parle de choses humaines. Or, l'Église, avant tout, est essentiellement surnaturelle. C'est l'histoire du bon Dieu, ce n'est pas l'histoire des hommes. Et c'est ça qui doit primer. Et ça doit primer à tel point que il le faut à tout prix. Quel que soit le prix, la chose qu'on n'a pas le droit de perdre, c'est le bon Dieu, l'amour du bon Dieu, la foi, si on veut être sauvé. Le bon Dieu peut nous mettre dans des épreuves telles qu'il faut choisir entre un certain bien-être, dans tous les sens du terme, temporel, ou même un bien vu, si on peut dire comme ça, et le bien vu par le bon Dieu. Il peut arriver jusqu'à il y a un choix. Ben, les martyrs ont dû choisir entre leur vie et la profession de la foi. Et les martyrs, eh bien, on les honore. Ceux qui ont lâché, non. Et donc, je pense que la grande, grande intention, c'est certainement ce mois-ci, nos relations avec Rome, sans aucun doute. Mais pas seulement pour que la fraternité gagne, c'est pas ça. C'est pour que le bon Dieu, pour la cause du bon Dieu gagne. Pour que l'Église refleurisse, sorte de cette crise. Et notre touche gagne les âmes plus que jamais.
Merci beaucoup, Mgr Bernard Feulet. Merci de votre passage. Soyez certains que nous prierons à toutes ces intentions. Je dis au revoir aux auditeurs de Radio Courtoisie et nous nous retrouvons dans 4 semaines.